Bonjour, ici Chantal Doré en ce beau soleil. Heureuse de vous retrouver à la barre d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Avez-vous commencé à vous déconfiner un peu? Si oui, comment vous trouvez les mesures sanitaires et de distanciation sociale? Moi, je vous raconte hier ma première expérience là dehors à prendre une bière tranquille sur une terrasse. J'avoue que j'étais un petit peu stressée de vivre tout ça, mais c'était sur une terrasse tranquille. J'étais avec ma sœur Karine, mon amie Julie. On était installés à 2 mètres, donc selon les réglementations. Et on essayait d'écouter les consignes de la serveuse qui avait sa visière, plus les plexiglas. Et je vous avoue que je sais pas trop quelle sorte de bière j'ai commandée parce que j'entendais juste dire « mais c'était vraiment très bon. C'était quand même un peu déroutant parce que, vous savez, on nous donne pas nécessairement de menu papier. Donc, il faut être muni de notre téléphone cellulaire pour aller voir le choix du menu en ligne. Donc, c'est un petit peu particulier, puis... je trouve que ça brise un petit peu le concept de relaxation qu'on a habituellement autour d'aller prendre une bière en terrasse. Mais en même temps, on a vu dans l'actualité là, comment ça a pu mener à des conséquences vraiment dommageables. Alors vraiment, je ne peux que nous inciter tous collectivement à beaucoup de prudence dans ces cas-là, dans notre déconfinement. Et là... il y a une autre expérience un petit peu dans le déconfinement qui est tout le magasinage. Hein, l'expérience de magasinage, ça aussi, là, ça a beaucoup changé. Et je suis allée, en fait, avec mon fils dans un magasin d'électronique parce que son casque d'écoute ne fonctionnait plus. Et il a fallu qu'il fasse sa recherche en ligne, qu'il commande en ligne et ensuite qu'on aille sur place prendre l'objet qui avait été payé. Et le réflexe que je me suis dit, c'est « Mon Dieu, ça ressemble à distribution aux consommateurs. » Je sais pas s'il y en a à l'écoute, là. L'autre côté, mes collègues, ils ont l'air de se rappeler très bien de quoi on parle. Mais c'était pour les plus jeunes qui sont peut-être à l'écoute. Finalement, on recevait un catalogue et dans ce catalogue-là, on choisissait, on faisait notre magasinage de l'objet qu'on voulait. On a tel numéro, numéro de série, la page, on arrivait en succursale et finalement, c'était vraiment une distribution, c'est d'où le nom distribution consommateur. Ceux qui le connaissent moins, là, je vous invite à aller écouter le sketch de Rock et Belles Oreilles. Puis s'il y a des plus jeunes à l'écoute qui ne savent pas non plus c'est quoi Rock et Belles Oreilles, bien tapez-le sur YouTube, vous allez le retrouver. Fait que ça, je trouve ça assez fascinant parce que toute l'expérience de magasinage même a changé et on revient à quelque chose qu'on vivait avant. Donc vraiment, distribution de vraiment, c'est ça, être plus dans un contexte d'entrepôt. Alors, j'ai quasiment envie de dire, plus ça change, plus c'est pareil. Et cette semaine, je reçois des gens qui, au contraire, croient qu'il faut faire changer les choses. Vraiment des gens qui font bouger les choses et ça va être sur le thème de l'engagement politique et de l'engagement social qu'on va retrouver mes prochaines invitées. C'est une émission vraiment intergénérationnelle cette semaine. Pourquoi? Vous allez l'entendre très, très bientôt. On reçoit un tout nouvel aîné, Richard Leclerc, qui vient tout juste d'avoir 65 ans. Donc, j'ai envie de dire un nouveau pensionné. Et aussi, à l'autre extrême, un jeune entrepreneur social au grand cœur, Steven Bilodeau, qui à 14 ans a créé une ligne d'écoute de solidarité entre les aînés. À mi-chemin, à peu près même, je dirais, là, entre 14 et 65, notre autre invité, la députée de Shefford, la députée bloquiste Andréane Larouche, va nous parler du dossier des aînés parce qu'elle est porte-parole pour le Bloc québécois du dossier des aînés. Alors vraiment une émission intergénérationnelle qui nous attend. Et pour lancer ça en beauté, comme il fait beau, j'ai envie de vous présenter une chanson tout en douceur, tout en bonheur, et qui est d'ailleurs le petit bonheur de Félix Leclerc.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvrée, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. C'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
Hey, bonjour tout le monde. Là, je suis vraiment très, très excitée parce que depuis le début du lancement d'Au fil du temps, c'est la première fois que j'ai des invités en studio, en chair et en os, et bien sûr derrière un plexiglas. Alors, c'est un duo extraordinaire que je vais vous présenter qui va vraiment nous parler d'engagement social. Et je vais lancer ça très, très simplement parce que la chanson qui a été, qu'on vient d'entendre, Le Petit Bonheur, c'est Andréanne Larouche, députée du Bloc québécois, du comté de Shefford, qui voulait nous la faire entendre. Et je lui demande, avant de nous la présenter plus formellement, pourquoi elle a choisi cette chanson-là.
Ben d'abord, faut dire que c'est un choix extrêmement difficile, une seule ou deux chansons, parce que ceux qui me connaissent savent à quel point je suis Madame Culture, ça a toujours été super important dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu rendre un hommage à sans doute celui qui est notre plus grand monument de la chanson au Québec, Félix Leclerc. Et j'ai choisi cette chanson plus spécialement. Ben, je pense que d'abord, le mot bonheur, après ce qu'on vient de vivre comme confinement, je pense que ça fait du bien de vivre un peu, de ressentir un petit peu de bonheur. Et c'est la première chanson que j'ai interprétée. J'ai un souvenir de moi très précis. Lorsque j'ai pris mon premier cours de chant, je devais avoir 5 ans. Et on m'a fait interpréter ce solo-là toute seule à 5 ans. Avec, je me rappelle très bien la petite robe orange que je portais. Ma mère l'a encore à la maison. Et ça a été pour moi le début d'une grande aventure. J'ai toujours fait de l'art quelque part, que ce soit du théâtre ou de la chanson, pour en fait pour m'évader. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie.
Et là, c'est merveilleux. Je sais, Andréanne, je me permets de tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps. Mm. Et là, on t'a eu une carrière assez riche jusqu'à présent. Et là, on te retrouve en politique au Bloc québécois, dans le comté de Shefford. Parmi les mandats qui t'ont été confiés, là, il y a tout le rôle du dossier des aînés. C'est un peu pour ça qu'on voulait te recevoir aujourd'hui. Mais pas que ça. Je sais que t'es appelée à prendre du galon et qu'on te confie d'autres responsabilités, aussi la condition féminine, l'égalité des genres. Tu es aussi vice-présidente du comité permanent de la condition féminine à la Chambre des communes.
Exact.
Alors, très, très impliquée. Et évidemment, d'entrée de jeu, j'ai envie de te demander... comment tu vois la situation des aînés, là, et plus particulièrement en temps de pandémie?
Ben, en temps de pandémie, moi, évidemment, je ne peux que déplorer le fait que c'est sans doute une, comment dire, des gens qui ont été parmi les plus touchés. En fait, moi, je me déplais malheureusement à dire que j'ai sans doute les deux clientèles dans mes deux dossiers, les femmes et les aînés,
ouais.
qui ont sans doute été les plus victimes de la pandémie. Les aînés, ben, c'est clair, on a vu la situation dans les CHSLD, mais autre que les... Que tous ces morts-là dans les CHSLD, il y a eu tous ces aînés-là à qui on a demandé d'être confinés, de rester à la maison. Et moi, j'ai commencé une tournée de consultation avec des groupes d'aînés et ça, c'est la chose dont on me parle le plus. C'est parce que ces aînés-là n'étaient pas prêts. En fait, on le sait maintenant, j'avais fait des colloques sur l'importance de socialiser. C'est oui. maintenant la vie sociale, l'isolement, ça fait partie des déterminants de la santé au même titre qu'une bonne alimentation ou de l'exercice physique. Quand on parle de troubles cognitifs comme l'Alzheimer, c'est clair que quelqu'un qui est isolé, ça va vraiment accélérer le processus de vieillissement. Donc, pour toutes ces raisons-là, les aînés ont vraiment déploré. Puis il y a toute la question de l'âgisme aussi, puis des préjugés oui. que ça crée. Les aînés, on a eu l'impression d'être ghettoisés. On nous a demandé de rester chez nous, on est restés mm-hmm. seuls, puis on s'est sentis victimes de préjugés comme si c'était nous qui portaient la plaie, en fait, et tous les fardeaux de cette pandémie-là. Alors, pour toutes ces raisons-là, effectivement, moi, je ne peux que déplorer tout ce qui s'est passé pour les aînés.
Bien, je pense que tu amènes un point intéressant, puis à date, on en a parlé à quel point, justement, les liens sociaux sont un facteur de protection. On a reçu au fil du temps déjà des spécialistes qui parlent que c'est un déterminant, même encore plus grand que bien d'autres aspects plus génétiques. Donc, essentiel de préserver ces liens-là. Et comment un petit peu tu vois pour l'avenir, là, comment on pourrait améliorer là, la relation aux aînés, surtout les liens intergénérationnels?
Bien, je pense que tu viens de dire un mot-clé, intergénérationnel. Je pense qu'il faut recréer des ponts entre les générations. Ça va être vraiment important pour pouvoir justement échanger puis apporter la richesse puis pas voir les aînés comme vraiment une espèce de poids économique. Dans tout le vieillissement de notre population, on a l'impression que les aînés entraînent notre situation économique vers le bas puis que c'est eux qui sont en train pratiquement de ruiner les finances publiques. Oui, évidemment, le vieillissement, il faut en tenir compte, mais plus que ça, il faut les voir aussi comme une force grise. Tout ce qu'ils peuvent apporter, puis ils ne demandent qu'à contribuer d'ailleurs à la société, puis à faire avancer les choses. Et il y en a qui veulent faire du bénévolat, il y en a qui veulent travailler, il y en a aussi, quand on parle de tout ce qui est travail invisible, les aînés en font partie. Ils sont ceux qui s'occupent de leurs proches et qui évitent évidemment beaucoup de sous à l'État également en restant à la maison puis en prenant soin des gens autour d'eux. Ils s'impliquent pour différents organismes, c'est là qu'on retrouve beaucoup, beaucoup de bénévoles encore aujourd'hui. Puis il y en a aussi qui veulent travailler. Donc, ils font en même temps, ils font aussi, non seulement ils donnent, mais en plus, ils font rouler aussi notre économie. Puis c'est ce que les aînés que j'ai rencontrés m'ont dit. Nous, on ne nous a pas rien donné pendant la pandémie. On a donné de l'argent à tout le monde. On a vécu la même hausse de prix que tout le monde, hausse des loyers, hausse du coût de l'épicerie. On nous a demandé de rester à la maison. Il a fallu payer pour avoir des services de livraison. On ne pouvait plus prendre les transports en commun, donc il fallait payer pour des taxis. On le sait que c'est plus cher. Après ça, on parle de relance économique, ben nous, on veut y contribuer, mais il faut nous donner les moyens aussi de pouvoir y contribuer. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup travaillé sur améliorer leur pouvoir d'achat à la Chambre des communes.
Je suis à peu près convaincue que la seconde chanson que tu veux nous présenter, en tant que femme politique, t'es destinée justement à vouloir améliorer le monde. Fait que présente-nous-la, puis on va l'écouter tout de suite après.
Oui, parce que... en tant que porte-parole, là, c'est le chapeau de porte-parole conditions féminines, mais aussi porte-parole aînée. Parce que les aînés et les groupes féministes se sont beaucoup appropriés la cause de l'environnement. Puis en tant qu'environnementaliste moi-même, ayant été impliquée dans un organisme une fois en environnement pendant 10 ans, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et dernièrement, durant la pandémie, on a vu le moment où on a tous été émus en regardant tout le monde en parle. La grande Diane Dufresne interpréter cette chanson-là. Alors effectivement, rendons un hymne à la beauté du monde, tout simplement.
C'est tellement bien présenté, mesdames et messieurs, que je vous dirai, on va tout de suite en chanson.
Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Na 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 du du, va 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 vivu, va va vivu. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuant pas le chant des oiseaux, ne tuant pas le bruit.
Ah, oh, wow, que c'est magnifique. Merci, Andréane. Une excellente suggestion.
On a des frissons, hein?
Oui!
On a vraiment des frissons. Alors, je dédie cette chanson-là à toutes les mères et les grands-mères qui ont décidé de vouloir travailler pour améliorer l'état de notre planète pour ceux qui seront là après nous.
Oui, merveilleux. Et puis là, j'ai envie de... C'est drôle, hein, parce que je connais Richard depuis 25 ans, peut-être. Et là, cette année, il s'est passé quelque chose de spécial. Il est devenu un aîné officiellement. Même, je dirais, moi, j'ai ma carte de la FADOC, fait que je suis supposée déjà être un aîné à 51 ans. Mais là, t'es un pensionné, Richard.
Un pensionné, wow.
Moi, je suis sa porte-parole, maintenant.
Ouais, mais là, je veux l'en...
Ah oui.
comment on vit ça? Parce que, tu sais, bon, juste pour te présenter un peu, tu es un publicitaire qui nous a donné de très grandes campagnes au Québec, beaucoup dans le sociétal. On pourrait passer le 8 minutes juste à parler des excellentes campagnes, mais tu t'es spécialisé, entre autres, dans les causes sociales en fondant Publicitaire.
Exact.
Et tu enseignes à l'Université de Montréal et également en Égypte,
oui.
Les causes sociales. Et ben, c'est ça, comment tu vis ça, être un aîné maintenant?
Ben, ça se vit très bien, tu sais, dans le sens que, bon, d'abord, je le sens pas. J'ai pas l'impression d'avoir 65 ans. Je suis un éternel adolescent, comme on dit. Et forcément, l'âge avance, mais je continue. Je continue de faire ce que j'aime. Tu sais, quand tu parles de publicité, effectivement, j'ai commencé il y a 40 ans à faire de la publicité commerciale. Mais ça a bifurqué pour aller vers le sociétal. J'adore ce type de marketing, si on peut appeler ça comme ça. Ben, c'est un marketing, en fait. Et moi, je le vis très bien parce que non seulement j'en fais, mais je l'enseigne, puis je l'applique. Tu sais, c'est vraiment comme, pour moi, une solution éternelle, si je peux dire. Je dois toujours faire de la communication sociétale. Même si j'arrêtais de travailler puis d'enseigner.
C'est dans ton ADN.
Je crois que oui.
Tu sais, absolument.
On parlait beaucoup de bénévoles tantôt, tout ça, mais ça fait partie d'un tout, ça. Je veux dire, moi, je suis bénévole dans quelques organisations.
Quelques, tu dis? Oui. Je pense que c'est probablement une des personnes les plus engagées que je connais.
Ouais.
Et là, je veux t'entendre. Richard a fait quelque chose d'intergénérationnel, là, un baby-foot géant.
Ouais.
Parle-nous de cette initiative-là.
Oui, bien... J'ai vu passer dans les journaux régionaux qu'il y a plusieurs écoles qui s'équipaient justement d'un espace pour pouvoir permettre de jouer en pleine pandémie et garder les 2 mètres.
Oui.
Et donc, sur le principe du baby-foot que tout le monde connaît bien, là, finalement, on en a fait de format géant. C'est vraiment ce qu'on appelle un baby-foot géant. Et là, ça permet donc, avec des mains sur des tubes, de garder cette distance-là de 2 mètres, en avant, en arrière, de côté. Et on l'a fait à l'école de Sutton. Forcément, c'était d'abord pour les jeunes, mais on s'est rendu compte que les plus âgés aiment beaucoup aussi. Et en plus, on peut même jouer en même temps.
Ben oui, c'est extraordinaire.
Parce que quand, supposons que tu embarques des gens de 10 ans puis de 60 ans sur un terrain de foot, puis il y en a qui vont courir plus vite que d'autres, il y en a qui vont être plus habiles, mais dans un circuit fermé comme celui-là, le ballon forcément va passer devant le plus petit comme du plus vieux, comme du plus grand à un moment. Tu sais, c'est fermé. Alors, le ballon circule, puis tout le monde frappe le ballon. Tout le monde joue. C'est ça qui est intéressant aussi. Et moi, en tout cas, on a fait un petit clip avec ça. Je sais pas si c'était l'occasion de l'avoir.
Oui, ça a été partagé. C'est extraordinaire. Oui.
Alors, forcément, ça démontre, parce que c'est justement des gars, des filles de tout âge qu'on voit dans ce clip-là. Oui. Ben, c'est amusant. C'est amusant. Puis, en tout cas, on en profite.
Avant de te demander de présenter la chanson que tu as choisie, il y a une question que je peux pas m'empêcher de poser parce que on va prendre une photo puis les gens vont peut-être voir là, vous êtes un couple intergénérationnel.
Oui.
Il y a quelques années qui vous séparent.
Exact.
J'ai envie de vous entendre un petit peu vous-même sur ces défis-là. Ça fait quoi un bon 10 ans que vous êtes ensemble?
Plus,
ouais. Hein? 2009.
Ouais. Okay. Oui, parce qu'en réalité, moi, je me suis présenté en politique bien avant elle.
C'est vrai.
Et en 2008, elle travaillait avec Christian Ouellet, qui était le député du Bloc québécois dans Bromiscoua. Et Christian, voulant aider le gars qui se présentait au Parti québécois, demandait à Andréane de venir m'aider à faire ma campagne au niveau des communications.
Elle a bien appris.
Et on est ensemble depuis finalement.
Mais je dirais que pour répondre à ta question, on tombe pas en amour avec un âge, on tombe en amour avec quelqu'un.
Ouais.
Et quand je parlais tout à l'heure d'âgisme et de combattre les préjugés, mais l'amour a pas d'âge de toute façon. Je pense que c'est une preuve que ça l'est. Puis comme quoi aussi à tous les âges, justement, on peut s'apporter quelque chose, on peut apprendre de l'autre. Je pense que c'est ça que ça démontre en fait cette histoire-là.
Puis, bon, il y a peut-être des mauvaises langues qui pourraient dire comment ça se fait que tu t'es ramassé avec le dossier des aînés.
Mais en fait, je me ramasse avec les dossiers des aînés parce que j'y ai travaillé. Ça faisait deux ans que j'avais travaillé derrière un dossier qui me tient beaucoup à cœur, la maltraitance des aînés. J'ai travaillé pour un organisme de justice alternative et de médiation, qui avait développé des formations pour sensibiliser la population, pas juste des groupes d'aînés. Là. Nous, on est en train de développer des liens avec les jeunes, justement, pour qu'ils puissent reconnaître si leurs grands-parents et victimes de maltraitance, des pompiers, des employés de municipalités, qu'on forme une forme d'éclaireur dans notre société pour repérer, parce que c'est pas facile d'aller dénoncer. On parle aussi beaucoup récemment, moi j'ai aussi le dossier de toutes les agressions sexuelles, mais il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux. C'est pas évident de s'avouer maltraité ou de s'avouer victime d'agression sexuelle. Donc il faut que des gens autour de nous soient là pour nous donner une forme de support à aller dénoncer. C'est ça qu'on faisait, la maltraitance des aînés. J'ai travaillé avec la chaire de recherche de Sherbrooke sur le vieillissement. Donc, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là qu'on m'a donné ce dossier-là.
Ah, absolument. C'est un petit clin d'œil. Non, mais je le sais que Richard, il y a des tentacules un petit peu partout, mais je sais que tu avais déjà fait ton chemin bien avant.
Et je tiens à dire que c'est aussi une volonté. Quand je me suis présentée, c'était ce bagage-là que M. Blanchet, le chef du Bloc, avait trouvé intéressant quand quelqu'un avait dit « Pourquoi pas Andréane Larouche comme candidate?
»
Puis quand il avait vu mon CV, il a dit « Ben moi, j'ai envie de développer la cause des aînés. » Puis on l'a vu récemment, si le Bloc a mis de l'avant ça, c'est parce qu'on a un chef qui croit beaucoup à améliorer l'état et la situation des aînés.
Okay. Là, Richard, moi, j'ai eu l'occasion de... Tu as eu l'occasion de me louer ta maison, ta magnifique maison à Sutton. Et je me rappelle que le premier disque que j'ai mis... Puis là, je dis le premier disque, hein? C'était probablement du vinyle. C'était un disque de Charlebois. Alors, quand je t'ai demandé quelle était ta chanson que tu voulais nous faire entendre, j'ai donc pas été étonnée. Et je trouve que ça va tellement bien avec notre thème que je t'invite à nous la présenter.
Oui, alors la chanson en question, c'est Ordinaire. Puis moi, c'est ma chanson québécoise préférée de tous les temps, en fait. Et je l'aime depuis le début. Dans le fond, c'est drôle parce que je me suis toujours un peu identifié à cette chanson-là. Tu sais, quand Charlebois, quand même, qui est un chanteur populaire, comme il dit si bien dans sa chanson, décrit cet environnement difficile, tu sais, dans lequel il se retrouve finalement. Vous voulez que je choisisse un Dieu, si vous saviez que je me sens vieux. Ces phrases-là, finalement, grandissent avec nous. Alors moi, avec le temps, j'en ai même pris possession, j'ai même fait une adaptation.
Oui, Richard fait un slam, allez voir ça.
Alors, je suis un concepteur publicitaire au lieu d'un chanteur enfin, populaire. Alors, mais c'est ça. Puis quand là-dedans, Charlebois dit, entre autres, qu'il y en aura d'autres plus jeunes, plus fous pour faire danser les bougalous, ben c'est un peu ça qui arrive aussi à 65 ans.
Ouais.
Quand tu fais de la publicité, t'es pas t'es pas de la génération finalement créatrice actuelle, tu vois. Alors, mais moi, je leur enseigne. Moi, j'ai des étudiants qui deviennent des bons concepteurs, qui travaillent dans des agences aujourd'hui. Alors, c'est ça, c'est un transfert.
Puis depuis que t'aimes la chanson, parce que tu me disais je l'aime depuis qu'elle existe, toi t'as été le jeune bougalou au début quand
j'ai été le jeune bougalou, maintenant ben c'est autre chose.
Mais je pense que t'amènes un point important, que plus on avance en âge, on est à l'époque de la transmission, et quand on a eu un bagage aussi riche que le tien, ben c'est le temps de transmettre, puis toi tu fais ça jusqu'en Afrique.
Oui, puis en fait ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu viens de dire, c'est que je donne mais je reçois tout autant. T'sais, le fait de pouvoir enseigner en Afrique, bon, tu as parlé d'Égypte, mais j'enseigne particulièrement aussi en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de pays francophones de là-bas. Et la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso. Bref, j'ai visité près de 7 pays déjà maintenant en Afrique. Et à chaque fois que tu entres dans ces pays, dans ces classes, avec des gens finalement qui viennent t'entendre, mais toi aussi, tu les entends. Puis moi, comme mes travaux sont des travaux pratiques, moi, je leur fais faire des campagnes. C'est eux qui choisissent
le sujet.
Mais moi, j'apprends sur plein de trucs parce que c'est eux qui créent des campagnes qui touchent leur environnement, qui touchent leur propre réalité. Alors, moi, je leur montre comment faire une publicité sociétale, mais eux, ils me parlent comment ils l'appliquent dans leur pays. C'est génial.
C'est vraiment le contexte parfait d'échange intergénérationnel, comme tu le dis. Et je pense que ce serait temps de l'entendre, ce magnifique ordinaire-là. Ouais. Alors, écoutez, je vous remercie tous les deux d'être venus nous voir. Et puis, je sais que vous allez au musée. Je vous souhaite une excellente visite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Le musée déconfiné.
On avait tellement hâte. Merci à toi de l'invitation.
Merci. Restez avec nous pour la prochaine demi-heure d'Au fil du temps. On reste dans le thème de l'engagement social et des générations. Et là, on va chez notre toute jeune génération. On reçoit un invité de 14 ans, il y a peut-être 15 maintenant. C'est Steven Bilodeau qui, à 14 ans, a lancé la ligne d'écoute Solid Aîné, qui est une ligne d'écoute pour les aînés pour briser l'isolement en temps de confinement. Donc, j'ai très, très hâte de lui parler puis de voir de quoi les aînés avaient à discuter puis comment ils réussissaient à établir ce contact-là. Ici Chantal Doré pour la deuxième demi-heure d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. On a entendu en première demi-heure un couple intergénérationnel, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça l'entrevue que nous avons eue ensemble. C'est un parcours de gens engagés. Des gens engagés en politique, des gens engagés dans leur communauté, des gens engagés dans leur collectivité, des gens engagés avec plusieurs générations. Si vous nous joignez au fil du temps dès maintenant, vous n'avez pas entendu encore l'entrevue ou vous avez envie de la réentendre, je vous suggère d'aller sur le site Internet qui est canalm.vuesetvoix.com. Vous allez pouvoir réentendre l'entrevue et même peut-être la partager à de vos amis qui ainsi vont connaître l'émission. Et puis, nous sommes également présents sur les plateformes de balado-diffusion comme Spotify, Apple Balado ou Google Play Music. Alors, tel que promis, voici Ordinaire de Robert Charlebois.
Je suis un gars ben ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux. Je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Je serai Philippe dans la rue. Mon grand public, je l'aurais pu. C'est là que je me retrouverai tout nu. Le jour où moi j'en pourrai plus. Il y en aura d'autres. Que ça clique, je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique. Ma vie à moi, c'est la musique.
Mon prochain invité est Steven Bilodeau, qui a une initiative vraiment extraordinaire en temps de confinement. Il a fondé une ligne téléphonique d'écoute pour briser l'isolement des aînés qui s'appelle Solidaînés. Et évidemment, moi, quand je vois un exemple intergénérationnel passer comme ça, il faut en parler, c'est trop extraordinaire. Alors, Steven Bilodeau, bonjour.
Bonjour, Chantal.
Oui. Hey, dis-moi, Steven, comment tu as eu cette idée-là? Comment c'est venu dans ta tête, dans ton cœur? C'est quoi l'étincelle que tu t'es dit, « Moi, Steven Bilodeau, je veux agir là-dessus? »
Ben, j'ai parlé avec mes mamies. Il y a ma mamie de Trois-Rivières qui, elle a la chance d'être un petit peu plus entourée parce qu'on est proche d'elle, on vient la voir tous les jours. Mm-hmm. Puis, par contre, ma grand-mère de Montréal, aussi, elle a de la famille, elle a ma famille, tout ça qui est là-bas, mais c'est plus difficile tout ça. Elle habite dans un condo, fait qu'il y a des règles, c'est plus restreint un peu, les visites et tout. Alors, ce que je me suis dit, c'est que c'est pas les seules personnes. Si elle, dans un condo, c'est plus difficile, dans les résidences, c'est encore pire, et dans les CHSLD, les résidences et tout ça, c'est difficile. Alors, moi, je me suis dit, j'espérais briser la solitude, puis je me suis dit qu'il y a d'autres jeunes qui aimeraient faire une bonne action. En entrepreneuriat, vous savez, on est beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes actions qui se font chaque année. Alors, c'est ça, j'ai décidé qu'on pourrait être plusieurs, puis faire tous une bonne action ensemble, puis développer des bons liens avec nos aînés.
Vous êtes combien de jeunes du secondaire là, à être des écoutants actifs?
J'ai pas le nombre exact, mais je crois qu'on est 7 environ. On est plus que 5, ça, c'est sûr. Donc, on est rendu en 7. 7, je crois. Ouais,
7, 5 à 7, là.
Oui.
Puis, combien d'aînés là, avec qui vous avez établi des liens?
On a 28 aînés sur notre liste. Puis, le nombre augmente régulièrement. Parfois, on a une journée qu'on se fait appeler. Oui, bonjour. C'est ça, j'avais appelé la résidence, ça nous rappelle. Puis, finalement, on a un aîné de plus qu'on zoome rapidement, environ 48 heures. Puis, l'aîné a déjà été appelé par quelqu'un de notre projet, en fait. Là. Il y a déjà le premier appel qui s'effectue dans les 48 heures suite à la réception de la candidature.
La candidature, est-ce qu'il faut avoir un profil spécial là, pour avoir droit à l'écoute de Solid Aîné?
Bien, qu'est-ce que je veux dire par candidature, c'est que parfois, c'est un proche qui inscrit un aîné. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme une candidature, mais quand on parle à l'aîné, des fois, ils sont pas intéressés. Donc.
OK.
C'est pour ça que j'ai appelé le mot candidature, mais habituellement, dans les résidences, ils vont voir eux-mêmes les aînés tout le temps. Ils vont tout le temps voir les aînés, ils leur demandent s'ils sont intéressés. Puis là, dès qu'on se fait appeler, moi, je le note tout de suite, je contacte mon enseignant, je lui dis, on a telle année qui souhaiterait vraiment deux fois par semaine, OK, on discute ensemble selon tel élève ou tel nombre de personnes pour voir qui serait le plus apte à pouvoir prendre l'année, qui aurait le temps et tout. On contacte ce jeune-là, puis on se fait tout le temps dire oui, hein, je vais le prendre, ça va me faire plaisir, puis on a vraiment des beaux liens avec nos aînés, on les aime beaucoup, beaucoup.
Donc, si je comprends, il y a des aînés là, que, par exemple, moi, je pourrais dire, ma mère aimerait ça recevoir un appel, puis finalement, quand t'appelles, elle dit, ben non, moi, j'écoute ma TV, je n'ai pas besoin de te parler.
ça l'a déjà arrivé, effectivement, une fois ou deux. Là, l'aîné me dit, ben merci beaucoup d'avoir passé à moi, mais je suis plus ou moins à l'aise, ça me tente moins pour l'instant. Mais c'est ça, c'est quand même, ça nous fait quand même plaisir de prendre l'appel puis de faire les vérifications.
Mais dis-moi, là, 28 aînés, là, de quoi ils aiment discuter?
Je dirais que ça dépend vraiment. Il y a des journées où est-ce qu'on discute de leur famille, il y a d'autres journées qu'on discute plus de la température qu'il fait, de ce qu'ils comptent faire dans la journée. Donc, ça dépend vraiment beaucoup, mais on parle des sujets au début de base. Je peux vous dire, mettons, le premier appel, on se renseigne sur la personne. On prend pas trop d'informations parce que ça reste quand même un peu confidentiel, là. Mais on prend quand même le nom. On prend qu'est-ce qu'ils font présentement à leur résidence, leur activité quotidienne. Est-ce qu'ils ont de l'entourage, tout ça. Comment qu'ils vont. Puis, comment qu'ils étaient dans leur jeune temps. Ça, ils aiment beaucoup parler de leur jeune temps.
Ouais.
D'où ils proviennent, leur famille, leurs frères, leurs sœurs. Toute leur famille, tout leur petit coin de pays, d'où est-ce qu'ils viennent. Parce que, vous savez, des fois, il y en a qui ont déménagé au fil des années. Il y avait une madame qui est rendue à Montréal, mais qui vient de Berthier, qui est tout près de chez moi. Mm-hmm. Donc, elle me parlait de son enfance à Berthier, du travail de son père, de l'inspiration qu'elle a eue de tout son père, de tout son métier, qui l'a poussé à aimer cette passion-là aussi. Donc, vraiment, de beaucoup de choses. Ça dépend vraiment. Nous aussi, on parle quand même à l'aîné. Oui. On leur compte nos petites anecdotes, nos comment qu'on va, puis on développe un peu comme deux amis qui se parlent tout en gardant le vouvoiement et le respect mutuel, là, mais comme deux personnes qui se connaissent bien, puis on jase simplement de la vie, puis de comment ils vont, on brise l'isolement, puis on jase ensemble, comme si c'était un membre de ma famille.
Ben justement, tu parles membre de la famille. Est-ce que tu crois que ces aînés-là, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de contact avec leurs enfants, mais peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants non plus, mais des neveux, nièces, tu sais, pour faire appel comme ça à un inconnu? Ou bien c'est juste des gens là, qui aiment tellement ça jaser, puis là, le Tim Horton est fermé, puis ils ont besoin de parler, là?
Ben, moi, je crois qu'au début, je me posais la question, puis je me suis dit, faut pas juger trop vite. C'est pas des fois parce que la famille ne souhaite pas s'impliquer. c'est que des fois, là, il y a des aînés que leur famille sont dans une autre ville. Fait que quand ils viennent, c'est plus difficile. Des fois, oui, les jeunes enfants sont pas tout intéressés de parler avec leur grand-mère. Après ça, aussi, il y a des aînés. J'ai même un aîné qui vit avec son mari, je pense, là, ou quelqu'un de sa famille, puis elle souhaite quand même parler. Des fois, on peut se sentir toute seule, même si on est 15 à la maison, là. Fait que c'est pour nous, il n'y a pas de critères et tout, mais tant que l'aîné est content de nous parler puis que ça peut lui faire du bien, c'est tout ce qu'on souhaite.
Hey, si tu savais, Steven, comme des fois, la solitude à deux, c'est pire que tout ça. Tu sais, des fois, les couples, hein, ils connaissent leur histoire par cœur. Fait que quand tu commences une histoire, puis l'autre fait « Ah non, pas encore cette histoire-là. » Fait que moi, des fois, tu sais, si mon ex-mari, là, il me disait, ça fait 3 fois que je l'ai entendu, cette anecdote-là. Fait que je serais portée à dire « Mais je vais appeler Steven, lui, il va écouter mes histoires. »
Ça m'arrive avec mes aînés aussi. Hein? Des fois, on se contait plusieurs fois la même histoire, mais on leur dit « Ah, mais ça, vous me l'avez déjà compris. Ah, mais là, je vais partir sur d'autres choses. » D'abord, même des fois, pour leur faire rappeler, parce qu'on travaille aussi avec des gens qui ont un peu d'Alzheimer.
Oui.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les appelle. Puis, mettons, la madame, si je te reconnais pas, « Ben oui, madame, quand vous étiez jeune, vous faisiez telle chose, habitiez à telle ville. Rappelez, vous m'avez compté ça. Ah oui, OK, c'est mon petit gars qui m'appelle. Oui, c'est ça. Bon, là, elle s'en souvient. » Fait que là, on peut passer à la prochaine discussion. Mais des fois, on revient sur nos anciennes discussions pour leur faire rappeler qu'on est toujours là. Puis des fois, il y a certains aînés aussi qui ont peur qu'on les appelle plus. Moi, je leur dis, madame, moi, je lui ai dit que vous appellerez. Je leur dis, ouais, inquiétez-vous pas. On les aime beaucoup, 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 nos aînés. Puis ce que je trouve aussi qui nous différencie des autres lignes, c'est qu'on n'a pas trop d'aînés non plus. On en a 28. Tu sais, 28, ça ferait quand même beaucoup venant de quelqu'un d'extérieur quand même. Mais 28 aînés à 10 minutes par aîné par semaine, par tant de jeunes, on a quand même le temps de jaser avec eux, ouais, et développer un lien.
Établir un vrai contact.
C'est sûr que chaque ligne dépend, va son nombre d'aînés avec son nombre de bénévoles. Comme les petits frères, là, ils ont, je sais pas, ils ont combien d'aînés, peut-être 10 000, mais ils ont 10 000 bénévoles.
Mm-hmm.
C'est pour ça que chaque ligne doit s'adapter avec le besoin, mais la possibilité qu'ils ont. Parce qu'on pourrait en prendre 150, 200 à 8 jeunes, puis leur parler 30 secondes. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vous souhaite une très bonne journée. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment développer un lien avec nos aînés. Mais,
par un vrai contact, là, pas juste vérifier si la personne est correcte.
Non, c'est ça. Pas juste prendre des nouvelles, d'en donner nous aussi.
Mm-hmm.
Ils ont besoin beaucoup de parler, de juste se faire écouter. Mais des fois, ils aiment ça aussi écouter nos anecdotes. Vous savez, moi, l'idée que ça l'a parti, oui, c'est mes grands-mères, mais c'est aussi le côté que nous, les jeunes, on n'est pas acceptés dans les centres de bénévolat. On prend des appels comme ça. Moi, j'ai appelé au centre de bénévolat, je me suis fait refuser, j'ai pas de 18 ans, tu fais pas d'appel, blablabla.
Fait que toi, t'as vu une opportunité
tête,
là, de t'impliquer.
La façon que j'ai, oui, c'est ça. Je me suis dit, c'est pas vrai que de vouloir faire une bonne action, on peut se faire empêcher de faire ça. Fait que je ne vais pas être le seul jeune qui s'est fait refuser ou le seul jeune impliqué sur la planète. Donc, il y a plein d'autres jeunes à notre école là qui sont exceptionnels aussi puis qui veulent vraiment aider, faire une différence concrète dans la vie de personne.
Puis toi, Steven, qu'est-ce que tu as appris là-dedans?
Je dirais que moi, vous savez, mon grand-père a choisi d'être à mourir. Puis dans ce temps-là, c'était pas. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais. C'était pas très, très. Ça allait pas très bien en propre vie. Puis j'ai voulu accompagner d'autres gens, d'autres aînés, d'autres personnes malades et tout. Dans l'autre projet que j'avais, là, j'ai aidé en fait un monsieur là, qui était en fin de vie. On a réalisé son rêve ensemble, tout notre groupe de l'aide. J'ai appris vraiment à apprécier des aînés puis à se dire que c'est pas parce qu'ils ont 50, 60, 70 ans de plus que nous. On reste tous des humains.
Ouais.
On reste tous des gens avec un cœur, avec même si on n'est pas pareil, même si eux autres c'est plus la musique classique, nous c'est plus le pop. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir qu'on a tous quelque chose à apporter à l'autre, tout le monde sur la Terre. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mes aînés. Puis, c'est des personnes tellement pas de malice, tellement de gentillesse. Puis, c'est triste que malheureusement, on ne puisse pas tous réussir à briser leur isolement. Mais vous savez, si on commence à dire ça, hey, j'ai pas réussi à appeler telle personne de plus, et on. Pas non plus culpabiliser avec ça, mais le plus qu'on va être capable d'aider ça va nous faire plaisir.
Chaque petit geste compte. Et juste te demander comme ça, t'as entendu peut-être nos invités avant, on parle de politique. Est-ce qu'on va peut-être te retrouver en politique, toi, Steven, plus tard?
Ben, je vous dirais que oui. Oui, oui. Oh. J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup être en politique. J'ai déjà quelques contacts. Jean Boulay, notre député de Trois-Rivières, je le connais très, très bien. Puis j'ai une bonne relation de avec le projet nous appuyer, avec d'autres projets plus personnels de moi-même que je veux déposer un projet de loi en fait contre intimidation pour le Parlement des jeunes.
Wow.
Donc, je suis en train d'aller chercher des gens pour m'aider. D'ailleurs, je suis posée d'avoir une conférence téléphonique avec le ministre de l'Éducation le mois prochain pour parler avec lui de mon projet de loi, pour avoir son opinion à lui aussi, comme j'ai eu celui-là de Jean Boulay. Puis on s'est même aujourd'hui, là, dans les derniers jours, on s'est lancé dans la confection de masques. Pas nous, là, mais on travaille avec quelqu'un qui fait des masques à Montréal. Puis on va vendre ces masques-là au coût de 15 $. Donc, les gens peuvent nous appeler là ou m'envoyer un message là, sur la page Facebook de Solidarité. Puis, les masques sont faits au Québec. Puis, c'est des masques là avec notre logo dessus. Il y a plusieurs choix de couleurs. Fait qu'on vend ça pour acheter des tablettes électroniques pour les remettre dans des résidences de personnes âgées.
Wow, la belle cause.
D'ailleurs, oui, c'est ça. Hier, je suis allée donner une tablette électronique dans une de nos résidences partenaires. J'ai pris le temps de rencontrer la direction, de voir les besoins qu'il y avait. Puis, il leur a remis une tablette là de la part de notre commanditaire. C'est quelqu'un que je connais bien. Là. Il y a une entreprise de planchers. Puis les planchers flottemblés, eux autres, nous ont donné une bonne tablette électronique qu'ils n'avaient plus besoin, en fait, puis qu'ils utilisaient très, très rarement. Neuve, quasiment, pas dans l'emballage, là, mais elle fonctionnait très bien. Fait que les aînés de cette résidence-là vont pouvoir l'utiliser pour faire des vidéoconférences avec leur famille. Encore là, dans le même principe de briser l'horizon.
Ben écoute, Steven, on aura peut-être l'occasion de reparler avec toi parce que moi, c'est sûr que je veux suivre ta trajectoire. Te vois soit en politique ou en affaires, comme entrepreneur social. Tu m'encourages beaucoup puis je suis sûre que tu vas encourager beaucoup de gens à t'écouter. Et j'avais demandé une chanson, mais j'en ai trouvé une pour toi.
D'accord.
Je vais te faire entendre 16 ans déjà. Ça, c'est dans quelques années pour toi, là, mais je te la dédie, Steven, et je te remercie
Parfait.
Grandement
Merci
d'avoir
beaucoup.
Été avec nous.
Je veux juste dire, en terminant, si vous me permettez, que les aînés peuvent nous appeler ou un proche peut inscrire un aîné sur notre ligne en appelant au 819-384-0376, 819-384-0376. Puis, si vous voulez le répéter au cours de l'émission pour que vos auditeurs puissent s'en rappeler puis prendre le temps de le noter, ça va nous faire plaisir de prendre vos appels. Puis, je salue tous les aînés du Québec qui nous écoutent. Je vous aime fort, fort. Puis, ça va bien aller tout le monde. On va s'en sortir.
Ah, Steven, c'est vraiment une perle. Merci beaucoup.
Ben, merci, Chantal. Merci à toi.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
On écoute 16 ans déjà.
Déjà, elle attend quelque chose, un appel, un visage, un message à l'écran. Elle parle au téléphone et son cœur se chiffonne au moindre tremblement. Déjà, elle est belle au présent. On lui dit, elle rougit, c'est gênant à 16 ans. Oh, les questions qu'elle se pose, les défauts dans le miroir, les sanglots certains soirs. Entre la femme qu'elle sera et celle qu'elle est déjà, une toute petite fille qui ne sait plus où elle va. Elle atteint 16 ans derrière et toute la vie devant. 16 ans.
déjà pleine de toutes les musiques. Une chanson britannique et son âme s'envole au-dessus de l'école. De là-haut, elle rigole, trouve le monde presque beau. Seize ans déjà, elle se rêve un roman, un peu triste, un peu flou, intriguée, elle attend au tournant de la page un nouveau personnage, un heureux dénouement. Entre la femme qu'elle sera et celle qu'elle est déjà, une toute petite fille qui ne sait plus où elle va. Elle atteint 16 ans derrière et toute la vie devant. Seize ans déjà, la famille, les fous rires, les amis pour la vie. Et pourtant, elle atteint un téléphone, un appel, elle frissonne. Un prénom qui rend fou, un baiser dans le cou. Entre la femme qu'elle sera, celle qu'elle est déjà, y a une toute petite fille qui ne sait plus où elle va. Elle attend.
C'était 16 ans déjà de Michel Rivard. Avant de vous quitter, j'ai envie de vous partager un petit exercice auquel je me suis livrée la semaine dernière. Je vous parlais peut-être là, que j'étais dans mon grand ménage de paperasse, de fichiers papier numérique et tout. Et je suis tombée sur, évidemment, là, le cœur du ménage qui est les journaux intimes. Et c'est souvent ce genre de truc là, qu'on garde pour la fin parce qu'il y a toutes sortes de souvenirs là-dedans. Et moi, j'ai été très prolifique. Hein. J'ai commencé à écrire à 12 ans dans mon journal intime et j'ai décidé de vous en amener des petits extraits. Je vous épargne les passages complètement inintéressants. Je vous dis, j'ai failli moi-même m'endormir en lisant ces passages-là. Puis je me disais, mon Dieu, qu'il ne se passe rien. Mais il y a deux petits bouts qui sont intéressants. Alors, il y en a un où je parlais à mon journal, parce que oui, je lui parlais. Alors, je lui dis, « T'ai-je déjà parlé de mon club que je veux faire? » Alors, ce serait un club social pour aider les gens. Et là, s'ensuit une description d'actions et des activités que je voulais faire pour aider les gens, dont un journal. Et je trouve ça fantastique dans cet exercice-là, en relisant ça, je me suis dit, tiens, c'est drôle, je me retrouve plus de 40 ans plus tard à animer une émission de radio. Donc, on était déjà dans une volonté de communiquer. Et l'autre petit bout dont j'ai envie de vous parler, ça dit, dans le fond, il ne dépendait que de moi. C'est moi qui contribue à la situation. Et écoutez bien ce petit bout-là. Je n'ai qu'à mettre les fils dans la machine à tisser. Et puis, on se retrouve 40-quelques années plus tard avec une émission qui s'appelle « Au fil du temps ». Donc, inspirée par cet exercice-là que j'ai fait, je me suis mis à chercher des articles et j'ai vu un article dans le magazine Psychologie où il y avait une entrevue avec un psychothérapeute qui proposait comme exercice d'écrire à l'ado qu'on était. Et lui, sa recommandation là-dedans, c'est que c'est un exercice là, qui est un formidable moyen de se redynamiser, qui permet là, d'aller faire la paix peut-être avec certains rêves qu'on avait, de se dire peut-être, ben il n'est peut-être pas trop tard là, pour en réactualiser des nouveaux. Alors, je vous propose vraiment de faire cet exercice-là, de revisiter vos champs des possibles. Et avec cette belle énergie-là, ben, on va être capable là, de faire du mieux pour le temps qui reste. Parlant du temps qui reste, il ne nous en reste plus beaucoup pour cette émission-là d'Au fil du temps. Alors, je tiens à remercier mes collègues Louis Garon et Mathieu Tessier qui est à la régie cette semaine. Et à la semaine prochaine, on reçoit entre autres une jeune femme qui travaille dans un CHSLD. Bonne semaine à tous. Au revoir.